Erev Tov Lekoulam, on revient dans notre étude du livre de Shemot et on est arrivé. Be'sha'a Tova ou Mutzlachat, Be'perek Kaf Dalet Pasuk Aleph. Chapitre 24, verset 1. Il est vrai que nous avions déjà commencé à lire un petit peu le chapitre 24, mais on va revenir parce qu'il y a certains éléments qu'on n'avait pas dit et qui sont, sont très importants et qui vont surtout nous faire dresser ce qui reste de cheveux sur la tête. Ça y est, d'ailleurs. Allons-y. A priori, on est à la fin du dévoilement au Mont Sinaï. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé depuis Parashat Yitro jusqu'à ici, c'est-à-dire, si on parle en termes de chapitre, depuis le chapitre Yutet jusqu'au chapitre Kaf Gimel inclus, ça se passe au Sinaï. Ok ? Y compris Parashat Mishpatim, puisqu'on avait dit Ve'eleh Mishpatim Asher Tassim Lifneem, on avait expliqué que Ve'eleh, ça veut dire Mosif à la Rishonim, Ma'elu Misinaï, Af Elu Misinaï. Quoi ? Ah, la dernière phrase que j'ai dite, quand j'ai dit « Ve'ele ha-mishpatim asher tassim lifneem » et voici les lois que tu mettras devant eux, et on a expliqué ce principe du Talmud, que lorsqu'il est marqué « Ve'ele » et « voici », ça rajoute à ce qu'on a dit avant, et donc la Torah nous dit, c'est pour te faire comprendre que de la même façon que les 10 commandements ont été dits au Mont Sinaï, eh bien les mishpatim de la paracha également. Merci pour tous nos amis francophones qui se seraient plaints à moi après. Non ? Donc, une fois qu'on a dit ça, il y a fait merde. Le problème, c'est que donc, ok, on arrive à la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire nous fait rencontrer le chapitre Kaf Dalet, le chapitre 24. Et on nous dit, « Vel Moshe Amar Ale El Hashem, Ata Ve'aron Nada Ve'aviu, Ve'shivi Mizikne Yisrael, Ve'shtaravitem Mirachok. » Chapitre Kaf Dalet, page 108, en bas de la page. C'est bon ?
Dans le livre blanc.
Dans le livre blanc. Donc, Mazé, quand est-ce que ça se passe, cette histoire de « Vel Moshe Amar Ale El Hashem » ? Quand on regarde Rashi, regardez ce que nous dit Rashi, Vel Moshe Amar, Parasha zo ne'emra kodem aseret adibrot. Alors là, on comprend bien le principe de En Mugdam ou Meuchar Batorah, qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans les différents chapitres de la Torah, les différentes parashiot de la Torah. Mais, rappelons-nous toujours, il y a quand même, oui, une importance à l'ordre que Dieu il a donné. Cette histoire se passe avant Matan Torah, mais elle nous est racontée après Matan Torah. Ok ? Donc qu'est-ce que cela signifie ? Nous dit Rashi, ça s'est passé le 4 Sivan, donc 2 jours avant Matan Torah, le moment où on est arrivé Be'etzem au pied du Mont Sinaï, et où Dieu il a dit « Ve'atem ti'uli mamlechet kohanim ve'goy kadosh ». Et c'est là qu'il lui dit la chose suivante. « Ve'el Moshe Amar » Allez à l'Hachem, Ata ve'Aaron, Nadav ve'Aviou, ve'Shivim, Mizikne Israël. Donc l'élite dirigeante du peuple juif, Moshe, Aaron, Nadav ve'Aviou, qui ne sont donc pas encore morts, évidemment, et les 70 anciens d'Israël, ve'Ishtachavitem Mirachok, ve'Nigash Moshe Levado, El Hachem, ve'Em lo Yigashu, ve'Am lo Ya'aluimo. Donc nous avons, si on veut schématiser la zone, on a l'Ebné Israël là. Disons que l'appareil photo, c'est la montagne. Donc on a l'Ebné Israël à ce niveau-là. On a Aaron, Nadav, Ve'aviou, Ve'shivim, Skenim là. Et Moshe là-haut. Ok ? Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Va'avant Moshe, va'y saper la'am et kol divrei Hashem, ve'et kol ha'mishpatim, ויען כל העם כל אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה.
Ils sont montés là?
Qui?
Moshe et Aaron.
Non, Aaron n'y monte pas, c'est Moshe tout seul. Moshe est monté et il est revenu. Puisque va yavo Moshe va y saper l'âme. Donc après être monté, il est revenu. Et il raconte, on n'en sait rien. Parce que de deux choses l'une, soit ça fait référence à uniquement ce que Dieu lui a dit, le fameux Katsivan, ou alors on nous a présenté l'histoire et on nous dit, en fait, ça va englober aussi tout ce qui s'est passé pendant qu'il est là-haut et qu'il redescend 40 jours plus tard. L'homme est chané, puisque nous, la Torah nous l'a mis, c'est Hakadosh Baruch Hu, nous l'a mis après les événements.
Parce que c'est chané. Parce que si c'est après, après 40 jours,
nous,
bah, y a quand même l'histoire de Hegel, commence pas tout de suite à raconter ce qui s'est passé.
Ah, tu dis, il y a une histoire de Hegel, alors on nous a pas dit que c'était Miyad au même moment. Peut-être que ça s'est passé juste après l'histoire du Vaudor et le fait qu'il a détruit le Vaudor, qu'il a fait boire les Bnei Israël, une fois qu'il a calmé le jeu. Ou alors, peut-être que c'est après son deuxième retour. On n'a pas d'indication ici. Le plus pshat, c'est que c'est avant Matan Torah. Ok ? Ça se passe avant Matan Torah. Mais qu'est-ce qu'on vient nous apprendre ? Et c'est ça qui est important. La question à se poser, c'est pas seulement quand ça s'est passé. C'est pourquoi Dieu il l'a mis ici.
Pourquoi si ça s'est... Hein ? Il dit déjà, on fera tout ce qu'il dit, on va le faire.
Ouais.
Avant qu'il reçoive la Torah.
Donc avant qu'on reçoive la Torah...
Pour ce qu'il y a dedans, sachez qu'on va tout faire.
Ah. Non. Non, pourquoi je dis non ? Parce que t'as inversé les temps. Regarde ce qu'il dit. L'Ebné Israël répond, Vayan kol ha'am, verset guimel. Kol echad, donc tous ensemble, Vayomro, kol advarim asher, lo asher yedaber.
Diber, ce qu'il a déjà dit.
Bavar, Agav, c'est effectivement pas forcément la Torah. Ça peut être autre chose. Et on va voir que c'est autre chose. Mais ce qui est important, c'est que Mash Hashem Diber n'a assez. Bemili Macherot, en d'autres termes, ce qu'il n'a pas dit, on n'est pas prêt à faire. C'est-à-dire, ce qui vient de toi et pas vient de lui, on n'est pas prêt à faire. À moins que, on entend Dieu nous dire que tu peux rajouter des choses. Et là, ça rentre dans le contexte de ça s'est passé avant. Et tant qu'ils n'ont pas entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu, ils n'étaient pas sûrs. Et finalement, ils ont entendu à Kol Beseder. Et c'est ce qui nous amène à la suite. Vayertov Moshe et Kol Divrei Hashem. Vashkem Aboker Vayved Mizbeach Tachat Ahar Ushtem Esrei Matzeva Leshnem Asar Shivtei Israël. Qu'est-ce qu'il a écrit ?
Quand il a dit « Kol divrei » toutes les
oui.
paroles, c'est quoi toutes ces
paroles ? Ben, c'est la question. Ces mêmes paroles, il les a écrites.
Oui.
Donc c'est quoi ce livre ? D'après Rashi, ça ne peut pas être la Torah. Oui. Eh oui, puisque il n'y a pas. Regarde ce que nous dit Rashi. « Et kol divrei Hashem, mitzvat prisha v'agbala » Donc ça, Rashi reste dans son idée que ça se passe avant Matan Torah. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est quand Dieu il a dit, vous devez vous séparer de vos femmes pendant 3 jours. Et là, quand on dit, Vayir Tov, Moshe, Mi Bereshit Vaad Matan Torah. Le dernier Rashi de la page 109. Pasuk Dalet. Dibur Amatril, Vayir Tov, Moshe. Ok ? Il dit, Mi Bereshit Vaad Matan Torah. Mais alors, attendez, c'est quoi ce livre, alors ? C'est un autre livre, alors ? C'est pas la Torah.
C'est le
début de la Torah. Et après, il a rajouté d'autres parachutes. Ça, c'est une grande marloquette. Comment la Torah a-t-elle été donnée ? Est-ce que Megillot, Megillot, ou Khatouma ? C'est-à-dire, est-ce que Moshe, il a d'abord écrit de Bereshit jusqu'à Matan Torah, et ensuite, chaque chose, il a rajouté, tous les soirs, il écrivait un petit bout ? Ou alors, à la fin de sa vie, je sais pas, 2 jours avant de mourir, Dieu lui a dit, allez, dictez, c'est parti, Moshe, assis-toi. À la Khale Maaseh, on est possède plus comme la deuxième avis. Rashi, il est possède comme le premier avis. On le voit ici. Et comment s'appelle ce livre qui ne contient que Bereshit, Ve'ad Matan Torah? Mais il s'appelle pas encore la Torah. À ce moment-là, au moment où il l'écrit, comment ça s'appelle? Eh bien, regardez. וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים שירוויינרי דנדו סגון הסברסה ויקח משה חצי אדם ויישם והאגדות וחצי אדם והזרק על המזבח שירוויינרי עושי ו... Vaikar sefer haberit, vaikra beozne ha'am, vayomru, kol asher diber Hashem na'ase venishma. Donc ce livre, il a un nom, il s'appelle Sefer Abrit. Omer Rabbeinu Rambam, Sefer Abrit, ze Sefer chez Katav Moshe, et qu'on n'a plus aujourd'hui. C'est pas le Sefer Torah. C'est un Sefer Acher.
C'est un Sefer
écrit, je crois. Vaïrtov. Vaïkar Moshe et Sefer Abrit.
Et à donc, quel moment il aurait reçu ces
affaires-là? Là
maintenant, ils reçoivent avant que Moshe y monte.
Voilà, avant que Moshe y monte.
Okay.
C'est-à-dire qu'ils ne s'engagent pas sur beaucoup de choses. Quand ils disent que la chair d'Iber Hachem n'a pas fini chemin, dans le Sefer Abrit, il n'y a pas beaucoup de mitzvot.
Il n'y a pas beaucoup de mitzvot. Tu dis qu'ils étaient plus dans les idées, machin, et pas dans les mitzvot.
Dans l'histoire.
Non, il y en a quelques-unes quand même.
Oui,
quelques-unes.
Oui. C'est dans ce Sefer Abrit qu'il y a un rave qui a décrit toutes les indicateurs pour soigner telle ou telle maladie. Et puis après,
non.
Il a enlevé,
non. Ça, ce que tu tu fais référence au Sefer Arefuot. C'est un autre Sefer sympathique que Moshe il a fait, mais c'est pas le même. Et Sefer Arefuot, et Hizkiyahu HaMelech, il l'a caché. Il l'a supprimé, il l'a enterré. Parce que les gens, ils commençaient à se fier uniquement à ça, et ils pensaient, ils avaient oublié que c'est en fait Dieu qui amenait la guérison. Hein? Bah, je sais pas. Pourquoi la Avodah Zara?
Par rapport au livre, quoi. C'est...
Non, c'est pas une question de livre. C'est, regarde, par exemple, je sais pas si tu connais, il y a des gens, des fois, ils ont mal à la gorge. Et ils ont ce qu'on appelle une angine. Et ils vont chez le docteur, et ils attendent 3 heures à la coupe à Trolim. Et une fois qu'ils ont attendu, et qu'il y a 3 personnes qui sont venues sans rendez-vous, qui leur sont passées devant, alors, finalement, ils se font voir par leur médecin, mais c'est pas leur médecin, parce que leur médecin, justement, aujourd'hui, il avait piscine. Donc, c'est le remplaçant qui ne connaît pas son cas, et qui connaît pas son tic refoui, et qui lui dit, Kochekomoul, j'ai virus. C'est-à-dire, bon, quand finalement, tu lui as fait comprendre que tu partirais pas tant qu'il t'a pas fait, quand il t'a pas donné des antibiotiques.
Ausculter aussi.
Et, ah oui, ausculter, c'est en option. C'est en option. C'est en option, bien sûr. Attends, ça demande du temps d'ausculter quelqu'un. Et finalement, on plaisante évidemment, le système de santé israélien est extraordinaire. Il n'y a rien... Hein?
Allez prendre des vasos, ça ira mieux.
Voilà. Je sais pas, si seulement on avait quelqu'un qui était dans les trames du pouvoir qui pouvait peut-être faire bouger les choses, je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, la personne, elle prend l'antibio. Et ça va mieux. Eh ben quoi? Elle pense toujours à remercier Akadosh Baruch Hu parce que c'est pas l'antibiotique, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a soigné. Est-ce que c'est Avodah Zarah, Ani Lo Choshev? Mais je pense que oui, on est tous un peu là-dedans aujourd'hui. C'est-à-dire, Sefer Refuot de Moshe, il a été égnisé. On a le même problème aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, mais c'est pas en tout cas Sefer Abrit. C'est pas ça, Sefer Abrit.
Mais dans ce Sefer, jusqu'à ce qu'il sorte d'Égypte.
Ouais. Bien sûr qu'ils connaissaient.
Donc ils connaissaient. Donc,
leur histoire, ils la connaissent.
Voilà.
Bien évidemment.
Donc qu'est-ce qu'il y avait de nouveau?
Ah ben il y avait peut-être plein d'anecdotes qu'on ne connaît pas. Je ne peux pas te dire, on ne l'a pas. Par contre, il y a quelque chose qui est, oui, très important. C'est que le Sefer Abrit, il est ma'anienne. Mais ce n'est pas ça qui est possèque pour les Bnei Israël. Ce n'est pas ça qui va déterminer si on fait ou si on ne fait pas. Puisque les Bnei Israël, Vaikar Moshe, Vaishlach, verset Zayin, Vaikar Sefer Aberit, Vaikra Beozne Ha'am, Vayomeru, Kol Asher Diber Hashem, Naase Venishma. Voilà. Par rapport à la première fois où ils ont dit Kol Asher Diber Naase, maintenant ils ont rajouté Venishma. Et ce verset-là, on le connaît très bien, mais on le connaît très très mal. Puisque la formulation Naase Venishma, est devenue la formulation absurde d'un certain monde religieux qui dit « Nous ferons et nous comprendrons », ce qui veut dire qu'il faut faire sans comprendre. Et après, tu comprendras, ou l'ail, peut-être. Et c'est terrible parce que ça engage les gens à être bêtes. Ben oui, il faut faire sans comprendre. Et moins tu comprends, et plus tu es religieux. C'est comme ça que ça marche dans certains milieux. Que faut pas chercher. Que, au contraire, quand tu cherches à trouver des réponses, ça montre que tu as un problème de émouna. Que non, il faut le moins se creuser la tête, et il faut faire ce que on t'a dit de faire. Point. Alors, Boker Tov, l'eau. Parce que ce n'est pas ce qui est marqué. Il y a marqué Kol Asher Diber Hashem, Naase Venishma. Comment est-ce qu'on sait ce qu'il faut la sot? Qui Hashem Diber? Les Machal. C'est pas moi. Faites la Brit Mila. Dieu a dit, faites la Brit Mila. Nous. Est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu. Est-ce que j'ai compris? Oui, un certain niveau. J'ai fait. Et en faisant, est-ce que j'ai dévoilé d'autres dimensions? Bah ben oui. Quand on dit Naase Venishma, que veut dire le mot Nishma? Oui, mais comment tu le comprends?
Intégrer,
comprendre. Donc le diber du début, tu l'as entendu aussi, donc tu l'as compris aussi. Ce qui veut dire qu'à aucun moment la Torah nous dit « fais sans comprendre ».
Alors pourquoi elle dit, c'est pas plutôt... pourquoi elle rajoute des...
Parce que c'est vrai que quand tu fais, tu comprends encore plus.
Alors t'as qu'à t'arrêter à Naase. Naase, on a fait, on a, parce qu'on a compris.
Kol Asher Diber Hashem, Naase. C'est ce qu'on y avait marqué au premier verset. Pourquoi est-ce qu'on rajoute? Parce que tu, une fois que t'as fait... T'as compris qu'il y a des choses que tu comprends maintenant que tu l'as fait, que tu comprenais pas avant de l'avoir fait. C'est-à-dire que le fait que t'as compris une compréhension de base t'a permis d'arriver à l'action. L'action te permet de comprendre encore mieux.
Comme on était en Israël.
Par exemple, comme on était en Israël, vadaï. T'as étudié là-bas, t'as été à des séminaires, le Rav Benishai il est venu parler dans ta communauté, et il t'a convaincu qu'il faut venir en Israël. Il a fait mon cas, kavod. Maintenant que t'es là, tu comprends encore plus, qu'est-ce que ça veut dire de...
C'est pas comprendre, c'est le vivre.
Bon.
Donc Naase, c'est Nishma, c'est plutôt vivre la chose.
C'est la compréhension suite
dans le vécu,
voilà. Ok, c'est pas seulement intérieur. C'est en accord, en adéquation avec l'action, avec la vie, quoi, tout simplement. D'accord? Donc c'est fondamental. Voilà. Mais ça veut dire qu'à aucun moment on t'a dit de pas comprendre et de faire comme un robot. C'est pas du tout l'enseignement de la Torah. Mais c'est incroyable parce que, tu sais, c'est pas à toi que je vais expliquer, hein, les politiciens, on leur dit, mes phrases, mes mots ont été sortis de leur contexte. Ben là, c'est pareil, t'as pris un verset, tu l'as coupé au milieu, et c'est bon. Ben non, mais c'est pas comme ça que ça marche.
Les rabbins qui font ça, c'est très compliqué.
Ah, c'est très compliqué. Mais on a dit qu'on donnait pas de marque aujourd'hui, donc voilà. Alors, une fois qu'on a compris ça, les amis. Bien sûr qu'on a compris. Une fois qu'on a compris ça, il y a quand même un élément, il y a deux versets que j'ai sautés, j'ai dit je vais y revenir, et il va falloir qu'on comprenne. Certes, cette histoire-là, ce chapitre-là, se passe, on a dit, avant Matan Torah. C'est-à-dire. Mais, comme je l'ai dit trois fois depuis le début du cours, Dieu l'a mis en place après Matan Torah. Il y a une raison à cela. Pour le lecteur, moi, cette histoire fait office de conclusion de tout le Mahamad Arsinaï. Et on me dit que ceux qui font la conclusion du spectacle, vous savez, quand tu vois un spectacle, tu as les chauffeurs de salle, et puis tu as celui qui termine le dernier numéro. En général, le dernier numéro, c'est le plus important, l'apothéose. Moi, quand je participe à des conférences avec plein de rabbanim, moi, je passe toujours en premier. Je suis là pour chauffer la salle.
Pas au CNEF.
Non, alors au CNEF, c'est différent. C'est parce que les gens, ils savent que les premiers rabbins, ils auront du monde. Et les derniers rabbins, ils n'ont plus personne parce que c'est trop tard. Donc en fait, c'est exactement la même. Non, parce que c'est bidouxé. Et quand on m'a appelé, on m'a dit, je ne dirai pas de nom, ça commence par un S et ça finit par un AM. Et je dirai pas de nom, bien sûr. Et il m'a dit, bon, tu sais, hein, que les rabbins avec les barbes, ils voulaient passer au début. J'ai dit, bah oui, évidemment. Non, alors on appelle ça une barbichette. Bekitsour, à Koltov. Mais le clou du spectacle, c'est le clou du spectacle. Eh bien, dans le peuple juif, qui est le clou du spectacle? Les enfants. Iné. Je reprends le verset Hey. Vaishlach et Naare bene Israël. Vayalu olot veizbechou zvachim shlamim la Hashem parim. Ceux qui viennent conclure, du point de vue du lecteur, toute l'histoire de Mahamad Har Sinaï, ce sont les enfants, la génération d'après, l'avenir.
C'est
qui, hein, Naharim?
C'est des adolescents, c'est pas les enfants. Ah non, dans le Tanakh, on parle de Nahar aussi pour les très jeunes.
Non, alors, on parle de très jeunes et on parle aussi pour les très vieux. C'est-à-dire, tu peux être Nahar et avoir des 80 ans. Parce que Nahar, c'est aussi un concept. Que je suis Er Laolam. Nahar dans le sens Er. Éveillé au monde. Bouddha. L'éveillé. Mais Nahare Bene Israël, là, en l'occurrence, on parle des jeunes. Maintenant, hein? Oui, c'est Rashi. Rashi nous dit les premiers-nés. Maintenant, qu'est-ce que ça nous enseigne, cela? Ça nous enseigne que, pour le judaïsme, l'idéal, c'est l'avenir. L'idéal, c'est pas la génération de maintenant, mais c'est la génération qu'on est en train de former. Et donc, pour Moshe Rabbeinu, qui donne la Torah, eh bien, il faut terminer le processus de don de la Torah par les enfants. Même si dans les faits, ça s'est passé au début. C'est-à-dire? Alors, ben, c'est-à-dire, Gamo. Il a fait Mehod, Naase, Venishma, on est très content, tout va bien. Mais, ce qui veut dire que, quelle est l'origine de l'action? Est-ce que c'est le livre dans lequel Moshe a écrit les choses? Ou c'est la parole de Dieu?
Si c'est Diber, alors c'est la parole.
Ce qui veut dire donc que l'origine de toute halakha n'est pas dans la Torah chez Birtav. Elle est dans la Torah chez Béal P.
D'où la Mishnah?
Non, pas d'où la Mishnah.
Attends,
je la refais. Si on nous a dit que Moshe il a écrit un livre, mais que c'est quand même pas ça qui a été le point de départ, mais c'est ce que Dieu il a dit, cela veut dire que quelle est l'origine de toutes les actions qu'on fait? Elle se trouve non pas dans le bouquin, mais dans ce que Dieu a dit, dans la transmission.
C'est retransmis dans ce qu'il a écrit.
Pas forcément.
Bah attends, depuis le début, on voit des... Tu t'arrêtes et tu dis, ça c'est une mise pendant Isa, ça c'est une mise...
Mais bien évidemment, alors tout à fait, tu poses une très très bonne question. Parce que, en fait, je vais expliquer ta question, avant d'y répondre. Ta question, elle dit... Non mais attends, dès qu'on l'étudie, Parashat Mishpatim... On dit ça c'est mitzvah comme ci, ça c'est mitzvah comme ça, machin. Et là, tu es en train de me dire que les mitzvot, on les apprend pas du bouquin. Alors effectivement, les mitzvot, on les apprend pas du bouquin. Mais des fois, elles sont marquées dans le bouquin.
Ah non.
Si, si. Non, je suis très très sérieux.
Non, t'es pas sérieux.
Ah, je suis complètement sérieux.
Non, t'es pas sérieux, je dis, il fait une blague. Oh,
ouais. Je suis complètement sérieux, je vais te donner une preuve de ma sérieusité.
Ma sérieusité, ouais.
Ça ne te dit pas, mais c'est pas grave. Voilà. Ou sérieusage. Ou sérience. Donc, tu n'as pas le droit, mon ami. Alors d'abord, Bezrat Hashem, Inch'Allah, Oda Hashana, on va danser à ton mariage, Keni Ratson, Amen, Miche, Bera, Chavoteno.
Ah, mais ça. Sur le livre, c'est tout.
En tout cas, Bezrat Hashem, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, Bonim ou Bonos. Sauf que là, amen, Bezrat Hashem, tout ce que vous voulez. Et comme disent les amis français, avec l'aide de Bezrat Hashem, il n'empêche qu'à ce moment-là, tu n'auras pas le droit, désolé, d'avoir une relation intime avec ta fille.
Ah bon?
Eh ben oui. Chidouche. Tu n'as pas le droit de coucher avec ta fille. Et ce n'est pas écrit dans la Torah.
Excuse-moi, c'est...
Ah, attends, deux secondes. Non, justement pas.
La sénilité, tu ne
Juste, bon. Justement pas.
Tu inventes
des psukim. C'est pas
vrai.
Eh bien, mon ami, je t'invite, avant de te faire mettre au pilori par la communauté ici présente, dans la paracha des Arayot qu'on a lu effectivement à Mincha de Yom Kippourim, je t'invite à aller re-regarder. Tu verras, oui, il y a plein de lotes galées. Zénachon, il y a plein de fois où on te dit tu vas pouvoir dévoiler la nudité de 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, justement, il n'y a pas marqué Issourbito. Il y en a plein d'autres qui sont dans la liste. Mais il n'y a pas marqué que ta fille n'a pas le droit de dévoiler sa nudité.
Ah,
c'est ça. Et pour... C'est pas marqué. Tu pourrais aller re-regarder la liste, je t'assure. C'est pas marqué. Et pourtant, ça n'empêchera pas le Rambam de dire que c'est Issour de Oraita.
C'est entre les lignes, alors c'est le côté sod de ce
qu'on... Non, c'est pas du tout sod. C'est juste qu'encore une fois, on est biaisé dans la compréhension de ce que veut dire Deoraita Vederabanan.
Deoraita.
Non, alors oui, oui, tu as traduit de l'araméen en hébreu, Nahon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit qu'une mitzvah est Deoraita et qu'une autre est Derabanan, dans la conscience populaire, ça veut dire Deoraita c'est marqué dans le bouquin, Derabanan c'est pas marqué dans le bouquin. Lo Nahon. Deoraita, ça veut dire que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Derabanan, ça veut dire que ça vient des rabbins. Des fois, il peut y avoir un Deoraita qui est pas marqué dans le bouquin, et il peut y avoir aussi un Derabanan qui est, oui, marqué dans le bouquin. Par exemple, Moshe, on a dit, sur Bito, c'est un Deoraita qui est pas marqué dans la Torah. Par exemple, Ktuba, ze mitzvah Derabanan, qui est marqué dans la Torah. J'ai pas parlé de Get. Ktuba, זה מצווה דה רבנן, זה לא מצווה דה אורייטה, והיא כן כתובה בתורה. כוח, לכתובה? מצוות כתובה, הוא לבוא דג'ה אבק, נו, מוער הבתולות. ונתרת לו כמוער הבתולות, זה כתובה. זה סק, מה כדור הכתובה, אופת. בקיצור, הוא הלוך פרקסם, פלופי כמושה ילדה דטרמיני, כונדווה ללמוד את הלכות החג בחג. זה מצווה דה רבנן, אלא דה רבנן דה מושה. Pas mal. Mais c'est pas de Dieu, donc c'est pas de Oraita. Mais il n'empêche que c'est marqué dans la Torah.
Le problème, c'est qu'on dit que Dieu s'est marié avec le peuple juif.
Oui.
Mais Miamar, Sheva Brachot, Miamar,
Sheva Brachot. Ah, c'est une très bonne question. C'est les anges, peut-être.
Il y en a qui disent que c'est Moshe. Il
ne peut pas.
Peut-être Moshe, c'était le témoin. Hein.
Ah, c'est...
Et t'as dit qu'il y a aussi un Dera Banane qui est dans la Torah.
J'en ai donné deux pendant que tu étais en train d'écrire. Je rigole. Ah là là. Eh, on peut plus faire des blagues. Tout va bien. J'ai dit par exemple Ktuba, c'est mitzvah derabanan chez Ktuba Batora, ou alors le fait qu'on doit étudier les lois de la fête pendant la fête. Ça, ce sont des ajouts de Moshe. Par exemple, il y en a d'autres. Donc tout ça pour vous dire, les amis, que le fait que quelque chose soit marqué dans le bouquin, c'est pas l'origine de la chose. L'origine de la chose, c'est quoi? C'est que Dieu nous l'a dit. Ce qui veut dire que la Torah, elle est d'abord Béalpé avant d'être Birtav.
Ça veut dire quoi? C'est quelque chose de...
Pourquoi non?
Je comprends pas...
Avant que ce soit marqué dans le bouquin. Est-ce que tu connais le...
Toutes les mitzvot sont les Moshé Missinaï.
Exactement.
Et pourquoi est-ce qu'on les a écrits alors?
Oh, là, tu commences à m'intéresser.
Attends, non, mais... Je m'en
fait temps. Hein? Mais ça, c'est qu'on n'a pas de source.
Ouais, justement.
Ça, non, mais je prends dans le sens qu'il voulait dire. Il a pas fait le talmudiste. Quand tu dis Alakha le Moshe Missinaï, c'est qu'en général, on sait pas d'où ça vient, donc on se dit c'est Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe. Là, tu voulais simplement dire que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, de la parole de Dieu.
Ça veut dire qu'il y a une transmission orale.
Exactement.
C'est écrit, mais en fait.
Alors non, pas Stam. Pas Stam.
Non,
le fait qu'on n'a pas encore dit pourquoi c'est écrit. Non, mais non, le fait qu'on n'a pas encore dit pourquoi c'est écrit, ça veut pas dire que c'est Stam. On n'a juste pas encore dit pourquoi.
Si ça nous vient à l'oral de Dieu.
Nahon.
C'est Stam, que ce soit écrit. C'est écrit, c'est bien, mais on s'en fout.
Ben non, c'est deux secondes. Ça vient à l'oral de Dieu. Tu as posé une très bonne question. Donne-nous la possibilité d'y répondre. T'as dit, alors pourquoi c'est écrit? C'était ça ta question.
Ok,
direct, tu dis c'est Stam. Stam, il y avait de l'encre. On écrit. Alors non, c'est pas Stam, mais d'abord je veux qu'on comprenne que c'est d'abord donc B-A-L-P. Okay. D'ailleurs, je pense que tu es familier avec un verset qui revient assez souvent d'ailleurs dans la Torah, pour être exact 70 fois. Vaïdaber Hachem El Moshe El Emor. Ce qui veut dire littéralement, et Dieu a dit à Moshe
de parler.
Pas d'écrire. Donc c'est-à-dire que tout ce que tu vois dans la Torah, d'abord, Moshe, il l'a transmis oralement. D'accord? Ah donc, alors maintenant, on peut se poser la question, alors à quoi elle sert la Torah chez Birtav?
Pour ne pas qu'elle se perde. Ou alors il faut...
Pour ne pas qu'elle se perde?
C'est très facile quand tu transmets avec l'oral.
Alors là, non. Je vais te dire, tu es magdima ta meouchar, mais en fait, tu dis quelque chose qu'on a dans la société occidentale. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Bah si, c'est ce que tu me dis. Pour pas que ça se perde. Et je te réponds avant même que... C'est parce qu'on l'a écrit qu'on est en train de la perdre. Exemple. Il y a plein de livres. C'est éphémère. J'ai vu ce Beit HaMidrash. Depuis que Rabbi Yehuda Hanassi, il a mis par écrit la Mishnah, on a écrit à peu près 100 000 livres pour essayer de comprendre ce que voulait dire Rabbi Yehuda Hanassi.
Parce que c'est pas le plus...
Parce que Barega Chezek Katouv, c'est figé au moment où c'est Katouv.
Et la Torah n'est pas figée.
Déjà, et que le problème, c'est que si le mec qui a écrit, il n'est plus là...
Comment tu peux être sûr que c'est ce qu'il a...
Est-ce que c'est... Voilà. Le Rav Cherki, il a l'habitude de donner cet exemple-là, donc je paraphrase le Rav Cherki. Lorsqu'il dit, c'est comme si je te dis, est-ce que tu peux me passer le sel ? Maït Kavanti. Ma Kavana, c'est quoi l'intention de ma phrase ?
Je veux qu'on discute.
Ça, il a fait. Un Ashkenaz, il n'aurait pas répondu comme ça. Mais toi, tu me dis, ça veut dire qu'il veut qu'on se dispute. Oh, ou alors ça peut vouloir dire que j'ai justement devant moi un bol de soupe et quand j'ai pris la première cuillère, j'ai fait soupe Ashkenaz. Et donc, ça voulait dire que je voulais simplement rajouter un peu de sel. Ou alors ça peut vouloir dire que je voulais voir si tu étais gaucher ou droitier. Mais je voulais pas te le demander comme ça. Ou alors je te l'ai dit en hébreu, je voulais savoir si tu comprenais l'hébreu. Ou alors, ça faisait 3 jours qu'on s'était pas parlé parce qu'on s'est disputé, et c'était le moyen de réouvrir le dialogue. L'Oyadéa, Zekatouv, donne-moi le sel, s'il te plaît. Ou alors, c'est comme, c'est si pour mais pour Sam, qu'il y a un homme qui s'est, un père, qui reçoit une lettre de son fils, le père sait pas lire. Et donc il demande à un voisin de lire la lettre de son fils. Donc le voisin, il lit, il dit, alors qu'est-ce qu'il dit mon fils? Il dit, bah ton fils, il dit, papa, donne-moi de l'argent, s'il te plaît. C'est ça qui a marqué dans la lettre. Et le père, il dit, ah c'est comme ça qu'il parle? Je lui donne pas. Et puis un mois plus tard, il reçoit une deuxième lettre, il demande à un autre voisin de lire, et l'autre voisin, il dit, alors qu'est-ce qu'il y a marqué dans la lettre? Il dit, papa, donne-moi de l'argent, s'il te plaît. Ah oh, là là, il en peut vraiment plus. Bon d'accord, je vais lui donner, il est trop chamoud. La même phrase. Mais l'intention n'est pas forcément la même en fonction de...
Le danger, il est le même à l'oral, ça
veut... Mais non! Parce que si je te parle et que tu comprends pas, tu fais quoi?
Je te pose la question.
Ben voilà, tu me demandes. Mais tu voulais dire quoi exactement? Ce qui veut dire que dès que c'est par oral, ça reste. Et la compréhension, elle reste. D'ailleurs...
Les lettres,
oui.
Elles ne sont pas écrites. Les lettres, elles ont une force.
Hein. J'ai pas dit le contraire. Attendez, là on est en train de parler... Là on est en train de parler... En faveur de la Torah orale. On n'a encore rien dit sur la Torah écrite. Donc, n'y voyez pas tout de suite une conclusion comme quoi la Torah écrite, on peut la mettre à la poubelle.
Non.
C'est-à-dire, là, on est en train de parler de la grandeur de la Torah orale. Dans 2 secondes, on arrivera à la Torah écrite. D'accord? Ce qui veut dire que Dvarim Shebeal Peh, on n'a pas le droit de les mettre par écrit. Et Dvarim Shebirtav, on n'a pas le droit de les mettre par oral, de les dire par oral. Par exemple, Torah Shebirtav. À la synagogue. Le lecteur de la Torah, il dit. Et comme on sait tous, le sport hebdomadaire de chaque juif, c'est de corriger le chazan. C'est de voir là où il s'est trompé dans la Kriyat Torah, c'est le plus important de la semaine. C'est-à-dire, maintenant 2 secondes. Alpi alaha. Est-ce qu'on corrige, par exemple, si il y a marqué, je sais pas moi, achat, et lui il a dit echat. Non, on ne corrige pas. Parce que... Hein ? Je t'ai dit, c'est le sport. Parce que d'après la halakha, si ça ne change pas le sens, dans la lecture de la Torah écrite,
on corrige pas.
Parce que l'essence de la Torah écrite, c'est d'être...
Imparfait.
Non, c'est d'être écrite. Donc s'il y a une erreur d'une lettre dans l'écriture, là on change. Mais si dans la lecture de cette Torah écrite, il y a une erreur qui ne change pas la compréhension, ça adore.
Parce qu'il y a pas, c'est les voyelles et qu'il n'y a pas les voyelles écrites.
Parce que l'essence de cette Torah écrite, c'est d'être écrite. Donc s'il y a un problème à l'oral, c'est pas ça le problème. Par contre, à l'oral, si tu as un problème dans la transmission écrite de la transmission orale, c'est pas grave. S'il y a dans les Mishnayot, il y a plein de versions différentes dans les Mishnayot. Des fois, il y a un mot qui change, il y a un truc qui change. Est-ce qu'on a dit, on jette tout à la poubelle? Non, c'est bien. Parce que l'essentiel de la Torah orale, c'est pas d'être écrite. Donc la Torah orale, elle a un rôle très simple. C'est de nous transmettre la volonté d'Akadosh Baruch Hu pour qu'on sache quoi faire. Tov, alors elle sert à quoi la Torah écrite?
Comment?
Quoi comment?
Comment le faire peut-être,
non? Toi, t'as appris comment on fait quelque chose dans la Torah écrite?
C'est le nishma alors?
Non, non, je te pose la question. Ah, non, la halakha, c'est pas la Torah écrite.
C'est ce qui est voilé, plutôt.
Voilé ?
Oui, caché, il faut chercher. Non, il faut chercher.
À quoi ça sert, ce texte-là ? C'est quoi le but de ce texte-là ?
Le rendre concret.
Il n'y a pas de but ?
Non, il n'y a pas de but. Il n'y a pas un seul but. Il y a plusieurs niveaux de...
C'est sûr qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a plusieurs niveaux d'études, c'est évident. Mais si on a dit que l'objectif numéro un de la Torah orale, c'est de transmettre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'on sache qu'il veut qu'on fasse,
la Torah écrite,
c'est quoi le but de la Torah écrite ?
Pour connaître
Hachem. Oh ! Pour connaître Hachem au travers de
nous-mêmes,
nous, de Am Israël. Parce que Dieu nous a choisis. C'est-à-dire que la Torah écrite est là pour raconter l'histoire du peuple juif. L'histoire de l'élection du peuple juif qui a pour rôle de dévoiler Dieu dans le monde.
C'est tout. Que Dieu, et nous, on rajoute maintenant un mal avec la Torah écrite.
La Torah écrite, c'est pour dire qui on est. C'est tout. Dieu, il a choisi que son dévoilement passait par une identité. C'est à ça que sert la Torah écrite. C'est pour ça que Rashi, lorsqu'il ouvre son commentaire de la Torah écrite, il dit, pourquoi est-ce qu'on a écrit ça? Alors que moi, en tant que rabbin, ce qui m'intéresse, c'est la halakha. Donc on aurait dû commencer la Torah par la première halakha. On dit non, on a commencé depuis Bereshit. Pourquoi ? Pour que un jour les gens ils vont dire au Bnei Israël, vous avez volé la terre d'Israël. Et ben on pourra leur dire, mais non, on l'a pas volé, c'est Dieu qui a créé le monde et il nous l'a donné.
Et d'ailleurs. Quel bracha on fait quand on lit la Torah écrite ?
Nachon. Bien sûr.
Alors, est-ce qu'on peut dire que Naasé ça contente la Torah orale et Nishma ça.
Non, Naasé Venishma, c'est Torah orale.
Les deux.
Puisque ça commence avec Kol Asher Diber Hashem.
D'accord.
Donc, maintenant qu'on a compris ça, alors qu'est-ce qu'il nous reste à comprendre? Eh bien, regardez. Vayal Moshe Ve'Aaron Nadav, je suis au verset tête. Vayal Moshe Ve'Aaron Nadav Ve'Aviu Ve'Shivim Mizikne Israël. Vayirou et Elohe Israël. Ve'Tachat Raglav Ke'Maase Livnat Asapir. Ve'Ke'etzem Hashamayim La'Toar. ולצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוהים, ויאכלו, וישתו. Alors là. Alors là. Déjà qu'il mange ses juifs, mais attendez, c'est quoi toute cette histoire? Mazé vaïrou et Elohim Israël. Oui, bien sûr, bien évidemment. Autant pour moi. Vaïrou et Elohim Israël. Ils ont vu le Dieu d'Israël. Et. Non, ceux qui étaient dans le verset avant, Vayal Moshe ve Aaron ve Nadav ve Aviu ve Shivim Zikne Israël, donc les dirigeants du peuple, et ils ont vu le Dieu d'Israël.
Ils ont vu de leurs propres yeux.
C'est ça le problème.
Oui, mais est-ce qu'ils l'ont vu sur le plan visuel?
C'est ça le problème.
Est-ce que c'est un être humain, une forme?
Non, c'est sûr que c'est pas un être humain. Mais je sais pas ce qu'ils ont vu.
C'est
Elohim. C'est pas Yudkevavke, mais Adain, ça t'arrive souvent de voir Elohim Israël, toi? Attention, on te rappelle de Shabbat. Regardez ce que nous dit Rashi. Rashi nous dit, Vayiru et Elohe Israël, Nistakelu ve Tzitzu ve Nitraivu Mita. Ils ont vu quelque chose qui les a condamnés à mort. Parce que, Lo Irania Adam Vachai. Parce que non, on ne peut pas voir. Ah, Ela, Shelo Ratsa Akadosh Baruchu Leharbev Simchat HaTorah, והמתים לנדב ואביו עד יום חנוכת המשכן, ולזקנים עד ויהי העם כמתוננים, ותיבר בהם אש, ותאכל בקצה המחנה, בקצינים שבמחנה. דיסי רשי, חויב. Oui, ils ont vu ce qu'ils n'auraient pas dû voir, et ils ont été donc passibles de mort. Seulement, Dieu n'a pas voulu les tuer sur le moment, pour ne pas embrouiller la simcha de la journée, de Matan Torah, et donc, il a gardé cette mort pour un autre moment. Nadav ve Aviou pour leur histoire, et les anciens d'Israël, lorsque, dans le Sefer Bamidbar, ils suivront le peuple dans les complaintes, et on verra Kadosh Baruch Hu, et Aaron. Donc, ça veut dire qu'ils ont vu quelque chose qu'il ne fallait pas voir ici. Ou du moins, qui n'est pas de ce monde-ci.
Quand on apprend que si un homme regarde Dieu, il peut
oui. On peut l'apprendre aussi du verset tout simple, qui te dit que « Lo irani adam vachai », qu'un homme, il peut pas me voir et vivre. Mais de là, on apprend aussi surtout quelque chose d'important. C'est que lorsqu'on pénètre dans une dimension qui n'est pas la nôtre, C'est dangereux. C'est dangereux. C'est lachonara. Lachonara, c'est essayer de parler d'une dimension qui n'est pas la mienne. Je parle de quelqu'un d'autre. Je parle de quelqu'un d'autre. Cette quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Je ne peux pas être dans son univers. C'est-à-dire ? Alors, c'est pas que lachonara. Bien sûr, bien évidemment. C'est un exemple. Le Arizal, Rabbeinu Ari HaKadosh, dévoiler les secrets de la Torah.
Les Français,
le Arizal, les observent. Le Arizal Zal. Le Arizal Zal, bien sûr. Le Arizal dévoilait les secrets de la Torah. Rabbi Chaim Vital lui a demandé, est-ce que c'est pas un petit peu dangereux? Et il a répondu, El Malasot.
Mais il a dévoilé qu'on peut rien comprendre quand même.
Toi?
Non, oui.
Bah, non, toi! Il y a plein de gens, bon, Hachem, qui comprennent. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui comprennent. Ouais. Maintenant, un jour, il raconte, le Hari, qu'il a vu un corbeau passer au-dessus de sa tête et il a compris que ça voulait, c'est le signe qui voulait dire que son fils venait de mourir. À cause des secrets qu'il était en train de dévoiler. Et je vous dis, entre quatre yeux, et je vous demande aussi à vous de ne pas le répéter, mais je me souviens très bien que, je crois que c'était le troisième jour, je ne sais plus quel jour, de la Shiva, du fils du Rav Cherki, où j'ai été le voir et je lui ai dit, Arav, je peux pas ne pas penser à l'histoire que vous nous avez racontée avec le Hari et son fils. Et il m'a dit, Ata Amarta. C'est toi qui l'as dit. Caché-meurtre. Quand tu rentres dans une dimension qu'il faut dévoiler, mais en fait il faut pas, mais il faut. C'est-à-dire quoi il faut pas? Si cette dimension elle existe, c'est qu'il faut la dévoiler. Ça, c'est peut-être pas encore le moment. Mais le fait que tu la dévoiles maintenant, que ce soit pas le moment, ça va faire en sorte que ça va enclencher plein de choses qui vont faire qu'à un moment donné, ça va se dévoiler. Bekitsour, celui qui prend sur lui de réaliser l'idéal, il va peut-être en pâtir. Mais c'est pas pour lui qu'il le fait. C'est une grande dimension à comprendre ça. Ah, de toute façon, on y revient. Hein.
Non.
On y revient. Mais c'est
Nachman.
Rabbi Nachman de Breslav, il a suivi les pas de son arrière-grand-père. Qui était l'arrière-grand-père de Rabbi Nachman? Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a compris que c'était le moment de partir en Eretz Yisroul. Et il a voulu partir en Eretz Yisroul. Et quand il est arrivé en Turquie pour prendre le bateau, Ibed et Amoichin. Il a perdu les Moichin. Ce qui veut dire en bon français, il a perdu la boule. Et il a compris...
Le Baal Shem Tov.
Et il a compris que c'était pas le moment. Et donc il est reparti à Mejibosh. Quatre générations plus tard, le petit-fils de sa fille, Rabbeinu Nachman ben Simcha ben Feige, il a décidé qu'il voulait aussi monter en Eretz Yisroel. Et lui, il est arrivé, il est monté dans le bateau. Et quand il est arrivé en Eretz Israël, Ibed et Amoichin. Il a perdu la boule.
Non.
Oui. Bah oui, non. C'est lui qui écrit. Non. Chez Ibed et Amoichin.
Près dans son chemin. Je l'ai lu. Bon, je dis rien.
Ibed et Amoichin, c'est lui qui a fait exprès, tu crois?
Non.
Ça vient d'Akadosh Baruch Hu, cette histoire. C'est-à-dire que il est confronté à une réalité qui le dépasse complètement.
Et il n'est pas bien confident.
Et il y revient. Il réécrit complètement. Il dit que tout ce qu'il a vécu pendant les quelques temps qu'il était en Eretz Israël, ça a rien à voir. Maintenant, il a compris que donc c'était pas le moment. Mais par rapport au Baal Shem Tov qui n'a pas pu encore y arriver, lui il est arrivé, mais il a dû repartir. Bon, les historiens qui sont moins prompts à étudier avec la ferveur diront qu'il est reparti uniquement parce que c'était la peste amenée par les soldats de Napoléon. Et donc, il fallait repartir parce que tout le monde était en train de mourir. Il n'y avait pas de vaccin, pas de troisième dose. Non, mais c'est possible aussi que ce soit les deux, Zélo-Zoter. Quoi qu'il en soit, le Rav Kook, il a suivi les pas du Baal Shem Tov et de Rabbi Nachman Breslav. Il est venu en Eretz Israël. Veulo ibed et amoichin. Et au contraire, il a reçu des moïchines au carré. Et il a dévoilé une Torah extraordinaire qui ne lui a pas obligé de repartir. C'est-à-dire, donc ça veut dire qu'il fallait le temps que les choses mûrissent.
C'était le moment.
C'était le moment, exactement. C'est-à-dire, Tov, alors, ok. Véletien ben Israël, lo shalach yado vechazet Elohim veichlu veishtu. Ah, v'tachad raglav kema asel ivnat asapir vekeitzem ha-shamayim la-toar. C'est-à-dire que ce qu'ils ont vu, ces gens-là, quand ils ont vu Elohim Israël, ils ont vu que mitachad raglav yavait ma-asel ivnat asapir. Sans rentrer dans toutes les explications de la Kabbalah de qu'est-ce que c'est l'ivnat asapir, zekashur le shiabud mitzrayim. C'est en lien avec l'asservissement en Égypte, où on a fait des levénim, on a fait des briques. Ve'ke'etzem ha-shamayim la-tohar, nous dit ici, regardez ce que dit Rashi, mishenig'alu haya or ve'chedva lefana. C'est-à-dire que ma'aseh livnat ha-sapir nous rappelle la shi'abud, et etzem ha-shamayim la-tohar nous rappelle la geoula. D'accord? Ve'yomer Hashem el Moshe. Et là, tenez-vous bien. Verset Yudbet. Voilà Hashem el Moshe. Allez Elai Ahara Veyesham. Monte sur la montagne et sois là-bas. Veetena lecha, et je vais te donner, deux points ouvrez les guillemets, j'ai un iskat chavila. Comme on dit en bon français, un package. Un deal. Un package deal. Je vais te donner cinq trucs. Vous êtes prêts? Et luchot ha-even, ve-a-torah, ve-a-mitzvah, asher katavti le-orotan. Non, t'as pas vu mes mains. Luchot ha-even, ve-a-torah, ve-a-mitzvah, asher katavti le-orotan. Alors évidemment, ça paraît pas... Voilà, les deux derniers, ils sont là. La Gemara va nous expliquer que ce verset-là fait référence à cinq choses différentes. Quelles sont ces cinq choses différentes? Eh bien, on nous dit tout simplement, Luchot ha-even, ze-aseret ha-dibrot. Luchot ha-edut. C'est-à-dire que, c'est quoi Luchot ha-even? C'est le témoignage que Dieu nous a parlé. Puisqu'on a entendu Dieu parler, et on a vu que c'est marqué la même chose que ce qu'on a entendu. C'est donc le témoignage que Dieu a parlé. Si on veut. Après, on a à Torah. Regardez ce que nous dit Rashi. À Torah, non, là, il le dit pas. C'est dans le Rashi sur la Gemara dans Masoret Brachot. Je vais vous le dire, moi, de tête. Donc, la Gemara de Brachot nous dit, à Torah, c'est quoi? Achumash. Ok? Mikra. Achumash. La Gemara. Ve'amitzvah, ze Mishnah. Asher katavti nevi'im uktuvim. Le'orotam, ze Talmud.
C'est quoi le'orotam?
Pour le renseigner. Melamed, shekulam nitnu le Moshe Misinai. Maintenant, comprenons deux secondes. Là, donc, on nous dit, Luchot ha-even, c'est l'étape de la loi. Ha-Torah, c'est le Chumash. Ha-Mishnah, c'est la mitzvah, c'est la Mishnah. Asher Katavti, c'est les prophètes. Et le Rotam, c'est le Talmud. Alors que les choses soient bien claires. Moshe n'a pas reçu le Talmud. Et Moshe n'a pas reçu non plus Sefer Yishayahu. Mais ça veut dire que les origines de Yishayahu se trouvent dans Torah de Moshe. Dans ce que Moshe y transmet. Les origines de la Sugya Talmudique, du débat Talmudique, commencent avec Moshe. Talmud, ce n'est pas que le Talmud. C'est-à-dire que quand il y a marqué Talmud, Bagmara, ça ne fait pas référence à la Gemara, puisqu'elle n'est pas encore écrite. Donc Talmud, Bagmara, c'est tout ce qui est l'apprentissage de tout. Ok, tout rentre dans le sens Talmud. Milashon, l'ilmod. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès l'origine, dès Mahamad Arsinaï, Dieu il va donner et la loi écrite, et la loi orale, et Nevi'im Uktuvim qui remplissent un rôle qui est différent, et également la transmission de tout enseignement. Ce qui veut dire que chacun a un rôle différent à jouer. À Torah, c'est à Mikra, c'est à Chumash. On a dit, son rôle, c'est de nous apprendre qui on est. La mitzvah, c'est la Mishnah, la Torah orale. C'est nous apprendre comment on fait les mitzvot. Asher katavti, c'est-à-dire qu'il y a une dimension qui doit être écrite, c'est les Nevi'im Uktuvim. Leorotam, c'est tout le dévoilement de Dieu dans chaque génération, dans chaque chose, où tu vas pouvoir le dévoiler. Tout ça prend sa source de Mahamad Arsinaï. Ok? ויקום משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלוהים ואל הזקנים אמר שבו לנו בזה עד אשר נשוב עליכם והנה אהרון וחור עמכם מי בעל דברים ייגש עליהם. Donc משה monte, ça y est.
Attends,
oui. Qu'est-ce qui se passe?
C'est quoi le rôle de
Yoshua? Ah, justement. Moshe monte, mais il monte pas tout seul. Il monte avec Yoshua.
Non.
ויעל משה, סליחה, ויקום משה ויהושע בשרתו, ויעל משה אל הר האלוהים. Tu as raison. Mais, pourquoi il s'est levé avec lui? Bon, c'est un pour lui dire, כבוד הרב. Et là, vous rappelez de notre schéma? עם ישראל, אהרון, נדב ואביהו, 70 זקנים, et משה il monte. Et יהושע il est là, au milieu. D'où je le sais, certes, je triche, je le sais de la paracha de Kitissa. Que quand Moshe redescend de la montagne, au début, il rencontre qui au milieu? Yoshua. Ce qui veut dire que Yoshua, il l'a accompagné un peu, il est resté, il l'a attendu au milieu, et Moshe, il est monté. C'est ça? Non, ça va être quoi son rôle, justement? Ça va être d'être celui qui est déjà là, le successeur de Moshe. À qui Moshe donne la Torah? À Yoshua. C'est-à-dire, et en attendant, qui sont les responsables du peuple? Aaron et Hur. Aaron, c'est mon frère, et Hur, c'est... À qui? Hur, c'est le fils de Moshe?
Non, le fils de Myriam.
C'est le fils de Myriam.
C'est ce qu'il dit. Le neveu d'Aaron.
Donc c'est... D'accord. Et par rapport à Moshe?
C'est son neveu.
Ça, c'est... D'accord, Tom. Il y a son frère et son neveu. Ok? Vayal Moshe lahar, vayechase anan et ahar. Vayishkon kevod Hashem al har Sinai. Vayechaseu e anan sheshet yamim. Vous comprenez qu'ici, on est en train de rejouer toute la création. Pendant 6 jours, il est rentré dans le Anan. C'est quoi le Anan? C'est Maïm. C'est Maïm. C'est en Maïm et la Torah. C'est la cloud, comme tu dis. Vaikraël Moshe bayom ha-shevi'i mitoch ha-anan umare kevod Hashem ke'esh ochelet berosh ahar le'enei b'nei Israël.
C'est quoi kevod
Hashem? Moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas non plus ce que c'est. Mais je sais que ça ressemble à un feu dévorant. Mais il était dans le Hanan. De l'eau, du feu, ça coexiste. Ken. Shama. Shamaim Ken. Ok? Dans cette dimension d'unité des valeurs. Vayavo Moshe betoch Hanan, vayal elahar, sicha, vayim Moshe bahar, arbaim yom, varbaim laila. Il y avait un autre bonhomme qui a passé quelque part 40 jours, 40 nuits.
On en a parlé récemment.
Qui lui aussi, à un moment donné, a dû être sauvé des eaux.
Dans l'arche, il a passé 40 jours. Mais il n'y a pas un bail, c'est 40 jours dans l'arche, mais un an en dehors.
T'as raison, le baboul, il a duré un an. Mais la pluie, elle a duré 40 jours, 40 nuits. D'accord. C'est-à-dire que l'eau, chez Yatora, c'est 40 jours, 40 nuits. En d'autres termes, c'est Matan Torah, le parachat noir. Seulement, le monde n'est pas prêt à la recevoir. Donc, ça nous noie. À l'époque de Moshe, on est prêt à la recevoir.
Non, mais j'ai pas compris ici.
Oui.
Traduire.
Je vous en supplie.
Que...
Lesquels?
Je sais pas.
Vaishkon, c'est celui-là que tu veux?
Non, bah, on a commencé à.
C'est ça, non? Bah, Vayal Moshe, là, si tu veux aussi? Que Moshe est monté sur la montagne?
Non, c'est pas par rapport au Pasuk Yud.
Yud quoi? Oh, on a dit ça! On a dit! Velaskenim, Amar, aux anciens, il a dit, voilà, vous retournez auprès du peuple, je mets en place Moshe, Aaron et Hur, et celui qui a un problème, il va les voir. Mm. Moshe est monté sur la montagne, et il a été masqué par la nuée. Veshkon, Kevod Hashem al Har Sinai. La Kevod Hashem. Je ne sais pas ce que ça veut dire. D'accord? Donc, je peux pas vous dire. Et Veshkon non plus. Non, si. Veishkon, Zemiachon, Shrenut.
C'est
Shrenut. Shrenut, Shrina, c'est face à moi. Hachachen, il est face à moi. Il y a une différence entre l'essence du divin et sa shrina. Donc sa shrina, elle permet la vie de l'autre. Eh bien, c'est une très bonne remarque. Et donc, il monte Behar Sinai, Vaychassou Anan, Sheshet Yamim, pendant 6 jours. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait cette corrélation avec la création du monde. Et le 7e jour, eh bien, Dieu l'appelle Mitoche Anan, depuis cette eau qui forme la nuée, qui est à Torah. Umar E Kevod Hashem, Kesh Ochelet. Ce Kvod Hashem, qu'on n'arrive pas à traduire, il ressemble, il apparaît comme un feu dévorant à la pointe de la montagne, aux yeux des Bnei Israël.
Là aussi, ils ont vu quelque chose.
On t'a pas dit qu'ils n'ont pas vu. Ils ont vu Kvod Hashem. Il y a une différence entre voir Kvod Hashem et de voir Elohé Israël. C'est ça?
Ils étaient en bas et...
Bah oui. Bah attends, si justement, si c'est une grosse flamme en haut, ça se voit. Ok? Bah, avant Moshe Betoch et Anan, il est rentré dans cette nuée, Vayal El Har, et il est resté là-bas, Moshe, 40 yom, 40 laïla.
On revient sur un truc, parce que j'ai quand même... Noir, c'était Matan Torah.
Oui, tout à fait. Noir, c'était Moshe. Seulement, un Moshe, dans une génération qui n'était pas prête à recevoir la Torah. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un mec comme Noir pour donner la Torah. Il faut que le monde soit prêt à la recevoir. Tu remarqueras que la Gemara pose la question, une question quand même très très bizarre. Elle dit « Moshe mina Torah minayin ». C'est-à-dire d'où on sait qu'il y a Moshe dans la Torah. Nine. C'est-à-dire d'où on voit Moshe dans la Torah. Okay. Et là, ils n'ont pas vu les versets « Vaïdaber Hachem et Moshe les morts okay. ». Et donc, ils te disent « Non, non, j'ai trouvé Moshe. Je sais où il est dans la Torah. Mm-hmm. » Il y a marqué dans la paracha de Bereshit, à la fin, à propos de Noar, « Beshagam ou Bassar, veyu yamav mea ve'esrim shana, Beshagam, zegematria Moshe. » Donc, dans le verset qui annonce les origines du Maboul, on te dit « Il y a Moshe là-bas. » Mais en fait, c'est quoi ce Moshe? C'est un Moshe qui n'est pas encore capable de se révéler. Noach, il est dans la Teva. Moshe, lui aussi, il était dans la Teva. Et il est resté 40 jours, 40 nuits dans la Teva, il a reçu quoi? La Torah. Et c'est Torah. Sheva Mitzvot, de Noach. Et Moshe, lui aussi, 40 jours, 40 nuits, il a reçu la Torah. Vebasov, quand il sort, eh bien, c'est une nouvelle dimension du monde et de la relation à Dieu. Pareil pour Moshe. Ok?
Chazak
ou Baro. Ils sont là, hein? Faut juste les prendre. Faut venir tous les